avec une présentation cet après-midi consacrée aux deux palais galliens, celui de Bordeaux et de Poitiers, que j'ai le plaisir de vous présenter. Et puis ensuite, une communication charnière sur la gladiature, suivie des travaux liés aux restitutions virtuelles de ces monuments des Jeux. Alors, le palais galien de Poitiers. Alors, l'amphithéâtre de Poitiers, ce n'est pas un scoop, est situé en périphérie de l'agglomération urbaine de Limonome. Mais ce qui est plutôt assez remarquable, c'est son implantation qui finalement est en vis-à-vis d'un grand ensemble thermal qu'on appelle les thermes de Saint-Germain au nord. Effectivement, il vient flanquer le plan d'urbanisme et il est relié justement au sommet de ce promontoire par des grands axes vières, dont l'un des quarts d'eau majeurs qui a été fouillé justement lors du chantier des Cordeliers où justement ont été trouvés les casques de gladiateurs. Donc c'est une implantation topographique assez remarquable qui s'étire vraiment sur le sommet du promontoire et qui cherche à gagner justement le maximum d'espace sur cette zone qui est en déclivité. Et effectivement, les constructeurs, ont dû justement négocier cette déclivité sur l'extrémité du sud du promontoire. Alors l'édifice, là aussi, on pourrait comme pour Tours évoquer cette notion de fantôme puisque l'édifice a en grande partie disparu du paysage urbain. Il a été effacé essentiellement en raison des aménagements urbains du Second Empire. Avec le percement des principales rues que l'on connaît aujourd'hui, on va les voir en détail. Ceci dit, l'édifice a conservé une empreinte dans la trame urbaine et on peut lire effectivement cette empreinte au travers de la courbure des rues, des principales rues de ce secteur. On va les voir en détail. Vous voyez que sur cette photo verticale, finalement, le tracé des rues reprend quelques lignes, quelques courbes des galeries annulaires qui permettaient de desservir le monument. Alors, l'implantation, la voici, on est à quelques pas de l'hôtel de ville, au sud. Vous avez cette grande rue de Magenta qui a été percée justement dans les années 1800, un petit peu avant 1860, qui est liée au plan d'urbanisme que vous avez ici, avec la création ici de cet immeuble qui est beaucoup plus récente. Et puis, un ensemble de rues d'héritage médiéval qui s'appuie sur le tracé des structures antiques, la rue Bourcani, qu'on verra tout à l'heure, la rue du Petit Bonnevaux et la rue des Arènes romaines. Et des percements postérieurs, comme la rue du Maréchal Foch, qui sont des grandes percées à l'intérieur du monument. Alors voici l'emplacement de l'arène, vous voyez, au carrefour finalement de cet aménagement urbain, avec le grand axe ici et le petit axe de l'édifice. Donc l'arène a été estimée à 70 mètres par 46 mètres. C'est une estimation, parce qu'effectivement, nous n'avons pas connaissance véritablement de la configuration de l'arène, puisqu'elle était jusqu'au XIXe siècle remblayée et occupée par des jardins, comme on va le voir tout à l'heure. Et puis, de part et d'autre de cette aréna, eh bien, vous aviez effectivement les deux parties distinctes de la cavea qui recevait les gradins et dont on peut effectivement mesurer l'emprise sur le parcellaire actuel. Alors, encadré justement de ces deux parties de la cavea, l'amphithéâtre de Poitiers dispose, comme certains édifices aquitains comme Bordeaux ou Périgueux, d'un dispositif d'entrée axiale tripartite, c'est-à-dire avec une grande voûte axiale rampante et deux couloirs jumeaux. Ça, c'est l'une des caractéristiques essentielles de ces édifices aquitains et que l'on connaît relativement bien à Poitiers. Alors, les données liées au soubassement, au plan des soubassements, est finalement connue à partir des grâce aux travaux réalisés au XIXe siècle, alors que le monument était relativement entre guillemets bien conservé, du moins avant les restructurations du Second Empire. Et ces dimensions ont pu être établies justement par les travaux de Bourgnon de l'Air et de l'ingénieur qui le secondait, l'ingénieur Lamotte. Et comme vous pouvez le voir, l'édifice a été estimé à 155 mètres pour le grand axe et 130 mètres pour le petit axe, qui en fait un édifice absolument considérable. Rappelez-vous, pour l'amphithéâtre de Tours, on avait des proportions pour le second amphithéâtre qui était 155 mètres pour le grand axe. On est à peu près sur des dimensions équivalentes. Donc, ce qui en fait un édifice absolument remarquable par ses dimensions. Alors, l'édifice, en fait, pour faire simple, comprend un ensemble de structures, je dirais, concentriques et annulaires, donc avec une série de tracés de 8 murs annulaires, ici. et 64 travées radiales. Alors, ces vestiges, on les connaît évidemment grâce aux visites dans les parcelles privées. Là aussi, c'est une grande difficulté comme à Tours, puisqu'effectivement, la connaissance de l'édifice s'acquiert au fil des visites dans les propriétés privées, dans les caves, dans les immeubles de cet ancien quartier des Arènes. Pour autant, il en subsiste quelques élévations qui sont phagocytées dans le tissu urbain, notamment dans la rue Bourcani, qui conserve la courbure d'une de ses galeries annulaires intérieures. Et ces vestiges que l'on voit ici, qui ne sont pas encore mis en valeur, témoignent justement de la conception dite à structure creuse de cet édifice, à savoir ce jeu de plein et de vide, avec ces voûtements qui se superposent et qui permettent justement de supporter les gradins de la KVA qui étaient en pierre. Alors, sur certaines orthophotographies, justement, ça nous permet de mettre en évidence le système de répartition des voûtes radiales, des travées radiales qui permettaient de desservir justement les galeries intérieures de l'édifice. Nous sommes ici au niveau du rez-de-chaussée. Et chose intéressante pour cette rue, c'est la conservation d'une arcature ici qui correspond en réalité à un niveau de palier, à un niveau d'entresol qui était évidemment dans l'Antiquité complètement masqué. Mais grâce à ces vestiges dans cette rue et malgré leur caractère ténu, il y a une valeur effectivement, je dirais, très pédagogique, puisque la visite dans chacune des parcelles nous permet d'avoir des observations complémentaires et offre un point de vue remarquable justement pour restituer la circulation intérieure dans le monument. Alors, voici ces travées. Là, ici, pour information, on est sur un rythme d'une travée sur deux, la travée 55, la travée 57, et une travée qui est ici masquée en partie par le bouchage de la voûte et aussi par l'adossement de la pentille qui est ici. Grâce à la lasergrammétrie, là, effectivement, on a recours effectivement au relevé laser, puisque c'est une condition sine qua non pour avoir une compréhension globale du monument, dans la mesure où effectivement l'ensemble des structures est phagocyté au cœur de l'îlot. Et donc tout est compartimenté, tout est cloisonné, et la compréhension du monument se fait justement par ces relevés. Et là, ce qu'on voit en transparence, cette espèce de radiographie en quelque sorte, c'est le système alternatif de ces travées radiales, voilà, au rythme d'une sur deux, et puis la continuité des structures à l'intérieur de cette zone-là, qui correspond en fait à un parking de stationnement, un parking privé, dont on voit d'ailleurs les rampes d'accès ici. Qui constitue d'ailleurs un patrimoine aussi intéressant d'un point de vue architectural. Et donc, le recours à ces relevés est relativement important. Et grâce à l'ensemble des observations que nous avons effectuées, nous avons restitué plusieurs niveaux, dont le niveau de palier d'entresol dont je viens de parler tout à l'heure, et qu'on verra tout à l'heure dans les coupes qui ont été restituées. Et également, la restitution hypothétique du sommet des gradins de la caverne. Voilà, pour vous donner un petit peu l'échelle de cette partie du monument. Alors effectivement, la complexité de lecture est telle qu'il faut effectivement être quasiment au pied du mur pour arriver à analyser l'ensemble des maçonneries et je dirais les distinguer. Et c'est effectivement une opération que nous avons conduite en 2015. À partir des relevés, nous avons essayé justement de décrypter un peu l'ensemble des maçonneries qui étaient stratifié en quelque sorte sur cette rue, et là en fait on reconnaît effectivement l'arc d'une des travées radiales avec quelques éléments des murs annulaires, avec au-dessus des constructions qui sont liées justement à la réoccupation dès la fin du 18e en l'occurrence de ces systèmes de voûtement, sachant que les rez-de-chaussée en fait de ces maisons servent de cellier et occupent les parties basses de l'édifice. Alors, dans cette rue, ici, nous sommes à la limite entre le 4, numéro 4 terre et le 4 de la rue Bourcani. Il y a une lecture, bien sûr, qui se fait des niveaux de chantier. Là, vous avez ce qu'on appelle des arrêts de chantier, c'est-à-dire en fait les grandes étapes, les grandes ruptures dans les étapes de montage des maçonneries, qui se lisent de manière relativement assez aisée dans la maçonnerie, dans le blocage de maçonnerie. Et avec la lasergrammétrie, on peut mettre en relation aussi ces arrêts de chantier visibles du côté rue, en lien avec ici, dans l'une des sections de galeries annulaires, on peut mettre en lien avec, par exemple, le départ de voûtement, qui correspond à un arrêt de chantier, là, ACH2, qui est relativement bien marqué. Donc, tout ça nous facilite effectivement la lecture et la compréhension des mises en, en, en chantier de la construction. Alors ici, nous sommes dans une partie qui appartient à la ville et qui occupe en fait une section d'une des galeries annulaires de l'édifice, sachant que l'amphithéâtre de Poitiers ne disposait pas d'une galerie périphérique. Et donc, la partie interne du rez-de-chaussée a été finalement doublée de galeries de façon à répartir de manière assez fluide les spectateurs. Et là, ce qu'on peut voir ici, c'est finalement l'arc qui a été bouché à une époque bien postérieure, qui est surmonté d'un arc de diaphragme, qui, au-dessus, est coiffé en fait, d'une grande voûte annulaire, qui ici a été détruite à une époque assez récente, et on voit ici un percement qui est artificiel, hein, qui est lié en fait au décloisonnement de cette structure au moment des réoccupations. On voit ici un détail de l'arc diaphragme qui conserve une partie de son parement en petit appareil. Alors, cette section du couloir annulaire a fait l'objet d'une fouille programmée. Et elle nous a permis de retrouver finalement le sol antique du rez-de-chaussée de l'amphithéâtre. C'était probablement l'un des rares endroits où on puisse investiguer pour retrouver effectivement des éléments en place et s'affranchir de toutes les contraintes de réseau qu'on aurait pu avoir sur le domaine public. Et là, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir effectivement retrouver d'une part ce niveau de sol du rez-de-chaussée et de l'associer évidemment à l'ensemble des relevés jusqu'au palier pour esquisser les premières étapes de restitution. Alors, je vais passer sur toutes les phases de réoccupation qui sont relativement importantes dès l'époque médiévale, avec à la fois des phases de cloisonnement de l'espace, mais aussi de décloisonnement, où effectivement les structures en caisson sont décloisonnées par le percement d'ouverture dans ces épais murs antiques, pour justement aboutir à de nouveaux usages, et notamment à l'époque moderne, des usages qui sont en lien avec les hôtelleries qui donnaient sur la rue Carnot, qui est autrefois la rue des Halles. Alors, voici aussi un autre intérêt des restitutions, enfin des levées laser grammétriques, c'est évidemment d'avoir une vision un peu plus générale de l'ordonnancement des structures et de leurs liens entre elles. Et là, ce qu'on peut voir ici, c'est effectivement l'appentis qui est sur rue, qui ouvre sur l'une des sections d'une des galeries annulaires, avec ici l'ancien niveau de sol. Et le niveau de fouille, le niveau de sol antique, qui a été retrouvé à l'issue de la fouille programmée. Et on va retrouver les mêmes éléments, cette fois-ci, vus vers l'ouest, avec le palier d'entresol, qui est relativement bien conservé, et la continuité des vestiges dans la parcelle voisine, en particulier dans le parking privé que j'évoquais précédemment. Voilà. Alors, voici l'ensemble des structures débarrassées de quelques habitations et maçonneries plus récentes. Pour vous montrer en fait la continuité des structures dans l'ensemble de cette rue, mais qui s'observe effectivement à la faveur des visites dans les parcelles privées, dans les parkings. Et parfois, on a des surprises très intéressantes, dans la mesure où effectivement ici, vous avez dans l'entrée du parking les parements d'un des arcs qui surplombe les couloirs, qui sont en très très bon état, avec un parement en petit appareil qui, malgré le bouchage, conserve une fraîcheur incroyable. Et lorsqu'on entre dans le parking privé, eh bien, on peut observer, malgré les destructions, finalement le jeu des intersections entre les voûtes radiales ici, donc une grande voûte radiale qui est bouchée ici, et les voûtes annulaires qui ont été effectivement ici fortement démaigries. Mais on retrouve beaucoup d'éléments qui nous permettent justement de réfléchir sur le système d'organisation de ces soubassements du rez-de-chaussée de l'édifice. Dans la parcelle plus au sud, aux 4 terres, on voit des vestiges très ténus, notamment d'une voûte rampante qui permettait de supporter l'escalier, qui permettait justement, depuis le palier d'entresol, d'accéder à la galerie de façade et de gagner la partie supérieure des gradins. Alors, d'autres vues inédites, toujours dans la rue, à l'intersection de la rue de Magenta et de la rue Bourcani, qui nous montrent, effectivement, là aussi, avec des maçonneries qui sont relativement bien conservées, la jonction entre le sommet des murs annulaires et le départ des grandes voûtes des galeries, qui sont matérialisées ici par une assise de réglage en pierre calcaire. Là, on voit également sur un des murs diaphragmes qui surmonte l'arc d'entrée, les deux types de maçonnerie allongée, enfin en pierre de petit appareil allongée, et un autre type de maçonnerie qui témoigne soit d'une autre équipe, soit de réfection. Effectivement, il y a quelque chose qui est là un peu moins uniforme, on va dire. Alors évidemment, quand on visite dans ce quartier qui est très, très marqué de manière identitaire au niveau antique, eh bien, on a des surprises, puisque là, en fait, dans la rue de Magenta, si on est en quelque sorte en position symétrique par rapport à la rue Bourcagny, on retrouve effectivement les mêmes vestiges, à savoir ces grandes travées radiales avec ces voûtes qui sont en partie sectionnées et qui retombent sur les couloirs annulaires de circulation. Et là, effectivement, tous ces vestiges occupent en fait les habitations de ce quartier, qui leur confère un cachet assez exceptionnel. Et effectivement, beaucoup de ces maisons ont ce type de vestiges qui ont été conservés au fil du temps. Alors, ces vestiges, ces voûtements, on les observe de manière assez flagrante, à la fois sur des documents iconographiques du XIXe siècle, mais sur des photos de 1857 qui sont prises au moment où, effectivement, la société civile du marché de Saint-Hilaire décide de détruire les vestiges de cette partie centrale des arènes pour construire une halle. Et ces photos sont assez émouvantes, puisqu'elles sont prises ici, au centre, dans la partie centrale de l'aréna qui est à cette époque complètement remblayée. Et on retrouve en fait les structures de la partie médiane de la KVA avec tous ces soubassements de voûtés qu'on a vu tout à l'heure dans la rue Bourcagny. On revoit d'ailleurs ici en perspective l'arc du palier de la rue Bourcagny et la maison dont on a vu tout à l'heure simplement les baies. On la retrouve ici avec sa toiture. Et cette photo, en fait, illustre également ce qu'on a sur d'autres documents du XIXe siècle, au moment où, en 1843, Bourgnon de l'Air publie justement ses travaux liés aux grandes prospections qui sont réalisées sur cette emprise et qui va constituer la première monographie sur cet édifice. Alors, vous avez en gras, finalement, ce qui subsiste de l'édifice, c'est-à-dire finalement toutes les structures qui correspondent à la partie centrale de l'édifice et qui correspondent justement à ce jeu de voûtes à la fois radiales et annulaires. Et c'est à partir de ces structures qu'il a été possible d'établir un premier plan de l'ensemble de l'édifice qui mesure ici 155 mètres par 130 mètres pour le petit axe. Alors, cette configuration, on la connaît également par des documents plus anciens, notamment des vues de Guénière du XVIIe siècle. Alors, elles sont finalement très intéressantes, autant, je dirais, pour l'identification des structures de l'amphithéâtre que pour finalement ses transformations, son devenir. Et en particulier, ce qui est très intéressant, c'est d'une part la réoccupation de l'aréna en jardin, un phénomène assez peu commun, et également par la présence d'un hôtel particulier qu'on appelle le logis des Évreux, ou le logis d'Évreux, qui est en fait un hôtel du XVe siècle qui est construit par Raoul Dufou, qui était en fait l'abbé commendataire de l'abbaye de Noyon-Beauvertou, notamment, qui était aussi évêque, et qui fait construire son hôtel sur la troisième travée de l'hôtel, de l'amphithéâtre, des parties médianes de l'amphithéâtre. Alors, en fait, le destin de ce logis va être scellé en même temps que celui de l'amphithéâtre, puisque tout va disparaître dans les années 1857. Alors, sur cette vue, justement, de Guénière, on repère parfaitement les vestiges des murs annulaires, le 4e, 5e et 6e mur annulaire. Donc, on est effectivement sur la partie centrale de l'édifice avec une identification de l'entrée nord. Donc, ça, c'est un travail qui est repris à partir des travaux qui avaient été publiés par Jean-Claude Gauvelin et Jean Yernard, justement, qui renouvelaient les connaissances sur cet édifice à la suite des travaux de Bourgnon de l'Air. Donc, voici sur ces arcs de cercle avec cette légende de couleur, les parties en fait qui subsistent du monument et qui subsistaient justement encore au XVIIe siècle. Alors, d'autres vues sont extrêmement précises, extrêmement détaillées, notamment la lithographie de Pichot, qui, elle, également, a fait l'objet d'une analyse relativement précise. Vous retrouvez ici le logis d'Évreux, qui est un élément, un leitmotiv relativement important pour bien identifier l'ensemble des structures. Donc, c'est ce que nous avons réalisé avec mon collègue Eric Hébert. Et de ce fait, on a une identification relativement précise à la fois des murs annulaires, c'est ce que vous avez ici avec les pastilles, le 4e, 5e mur annulaire, mais aussi avec les travées radiales, vous voyez, qui sont numérotées ici. Et on a poussé le vis jusqu'à aller identifier les maisons qui sont représentés ici et qui subsistent encore, puisque vous avez ici des hôtels particuliers du XVe siècle avec escalier hors œuvre, qui sont très très bien conservés et dont nous avons pu visiter les caves, puisque ces édifices en fait s'appuient complètement sur les structures antiques de la cavea. D'autres documents, d'autres témoignages d'archives sont également extrêmement précieux, et notamment le projet d'implantation du marché Saint-Hilaire, puisqu'effectivement, ce projet implique au préalable la réalisation d'un plan relativement détaillé avec un état des lieux associé. Et en particulier, ce qui est très intéressant ici, c'est la représentation à la fois des transformations de l'édifice, mais également de tous les éléments périphériques qui sont liés aux nouveaux usages de cet édifice. En particulier, on reconnaît ici le plan de l'hôtel d'Evreux et également l'ensemble de ces bâtiments qui sont en fait des bâtiments du 15e dont on a pu faire l'analyse et qui correspondent en fait à l'auberge des Antiquités romaines qui était installée devant les vestiges de l'amphithéâtre. Alors voici la fameuse halle qui a été implantée quasiment au cœur de l'arène et qui a cédé la place à un immeuble particulier dans les années 50 et qu'on peut encore voir aujourd'hui. Donc voici une identification en fait de l'ensemble des travées. Ce qu'on remarque d'emblée, effectivement, c'est l'importance de la porte d'entrée. La porte d'entrée nord qui subsistait encore au fond d'une cour, de la cour justement de l'auberge des Antiquités romaines, avec ces couloirs latéraux qui sont si caractéristiques de ce type de construction antique des amphithéâtres aquitains. Alors voici aussi une interprétation de l'ensemble, avec cette particularité qu'on a effectivement les jardins bas et les jardins hauts de l'hôtel d'Evreux, qui occupait l'aréna. Mais on pouvait également, depuis le grenier de l'hôtel d'Evreux, circuler sur le sommet des vestiges. Et on désignait à l'époque cet emplacement sous le terme les dunes, donc appellation qui est bien connue à Poitiers. Et on a effectivement quelques gravures, on voit des personnages figurant sur le sommet des arcades, et on a même des descriptions littéraires de cet endroit, appellation qui disparaîtra évidemment avec la destruction de l'ensemble des vestiges. Alors, si on entre un petit peu dans le cœur du monument, l'édifice présente effectivement une compartimentation en plusieurs zones de la cavea et qui doit effectivement, comme on l'a expliqué ce matin, correspondre finalement au cahier des charges de l'architecte qui doit respecter la hiérarchisation sociale au sein du monument. Donc là, on a identifié effectivement les structures de la partie basse de la cavea, des gradins, à laquelle on accédait par des couloirs de façon directe au rez-de-chaussée. Et cette desserte depuis le rez-de-chaussée permettait également de desservir les galeries annulaires, ici, vous voyez, qui sont dédoublées à chaque fois pour justement fluidifier le flux des spectateurs. La partie qui suit la partie basse de l'Imacavea est également desservie par ces couloirs-là, par des accès directs, et permettait également de desservir les couloirs annulaires. Et enfin, la partie la plus périphérique et la partie médiane étaient desservis directement par des escaliers situés en façade, et c'est ce que j'ai matérialisé ici, par les flèches jaunes. Alors évidemment, ceux qui empruntaient les cages d'escalier, évidemment, sont les personnes les moins pourvues, effectivement, les femmes, les esclaves, les affranchis, etc. Et nous avons essayé, à partir des vestiges qui ont été relevés, notamment en orthophotographie et sur la base également de la documentation dont nous disposions au XIXe siècle, d'esquisser deux coupes transversales, une coupe sur la travée paire, celle qu'on empruntait pour accéder aux étages. Et donc, on empruntait directement depuis la façade un escalier qui conduisait à ce fameux palier d'entresol que nous avons vu tout à l'heure et que vous voyez ici, l'arc en coupe à cet endroit-là. Et de ce palier d'entresol, en fait, on changeait de travée pour accéder ensuite à un escalier qui conduisait à la galerie de façade. Et de cette galerie de façade, on changeait à nouveau de travée pour accéder à l'étage. Alors cette voûte rampante, je vous l'ai montré tout à l'heure en photo, elle est très ténue, mais elle est effectivement bien conservée, justement dans la rue Bourcani. C'était un élément relativement important pour nous aider à la restitution de ces structures. Ici, vous avez effectivement l'étape suivante, c'est-à-dire la modélisation que nous avons réalisée avec la Société Art Graphique et Patrimoine dans le cadre de la restitution 3D de l'édifice. Et en particulier sur cette travée, nous sommes intéressés à la disposition effectivement des voûtements, de chaque voûtement, de la position effectivement des arcs à partir des éléments qui avaient été relevés pour tenter de restituer une cavea avec une pente et des emmarchements qui étaient relativement crédibles au regard de ce qui avait été publié sur ce type de monument. Voici l'arc d'entresol ici avec une orthophotographie, et dans la parcelle voisine, vous voyez la continuité en fait de cet ensemble qui était justement qui marquait le palier d'entresol de cette partie de l'édifice. Donc là, dans la travée impaire, on est effectivement sur un système de desserte de la partie basse de l'édifice qui permet de gagner à chaque fois le mur de podium et la partie basse de la KVA et qui passait devant ces galeries annulaires qu'on voit en partie, au moins, dans la rue Bourcagny. Alors voici justement cette fameuse voûte rampante dont on a le départ ici. Nous conservons également sur ce mur énormément d'éléments extrêmement précis, justement sur la base du démarrage de l'escalier. Donc là, malgré l'état de conservation qui parfois est assez précaire, on a des documents archéologiques qui sont finalement d'un secours important pour la restitution. Donc là, ce que nous avons fait, c'est grâce à l'orthophotographie, nous avons projeté la coupe à partir des éléments qui avaient été relevés relativement précisément. Voilà. Alors, l'entrée principale, elle, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, elle est connue par toute une série de documents et par un document assez exceptionnel, la 3D de l'époque, si vous voulez, c'est une maquette en terre cuite qui a été réalisée par Alphonse Letouzé de Longmar, et elle est d'une précision absolument remarquable, puisque l'auteur en a en fait dessiné les pierres qui constituent justement la voûte. Il a reproduit également les parements en petit appareil des murs. Et on voit très très bien effectivement qu'on est sur une voûte rampante, donc vous voyez une voûte inclinée dont la base était matérialisée par une corniche et qui nous rappelle fortement en fait le dispositif d'entrée à l'amphithéâtre de Saintes notamment. On voit également que la pente d'accès de l'entrée principale est très encaissée, car effectivement l'aréna devait être surcreusée en réalité, et beaucoup d'éléments nous le confirment. Sur cette petite vue en haut à droite de Téchon, on reconnaît l'hôtel d'Evreux avec une physionomie qui est relativement bien détaillée et qui est à cheval, bien sûr, sur les structures de la partie médiane de l'amphithéâtre. Et voici cette photo qui est assez saisissante, qui montre en 1857 les ouvriers affairés à la destruction de cet ouvrage. Alors on peut être évidemment très frappé par le peu de moyens qu'avaient ces ouvriers. Quand on voit la dimension de cet ensemble, on a plus de 10 mètres de hauteur ici pour la voûte axiale, et ces fameux couloirs jumeaux qui pouvaient desservir la partie basse de la KVA et accéder à une sorte d'avant-cour de l'amphithéâtre. Et dans le cadre de la restitution de l'amphithéâtre, Art Graphique nous a permis d'insérer le modèle 3D dans l'environnement urbain actuel pour rendre compte de l'échelle monumentale de cet édifice au regard justement de la taille des immeubles. Donc nous avons, à partir des plans qui ont été esquissés, restitué une façade avec un attique. Alors, l'attique, effectivement, est très conjecturel, puisqu'on n'a pas du tout d'idée des superstructures, et nous l'avons restitué sur une hauteur d'un peu plus de 20 mètres, on est presque jusqu'à 25 mètres, sachant que la KVA est large de 42 mètres, ce qui est relativement conséquent pour ce type d'édifice. Et pour terminer mon propos, évidemment, comme je l'ai souligné tout à l'heure, l'amphithéâtre de Poitiers a des particularités qu'il partage avec d'autres monuments aquitains, et en particulier l'amphithéâtre de Périgueux, qui malheureusement n'a pas été étudié vraiment dans le détail, et un autre palais gallien, celui de Bordeaux, dont on va vous parler tout à l'heure, au point que la superposition des plans entre l'amphithéâtre de Bordeaux et de Poitiers est relativement, nous interpelle en tout cas, puisque l'aréna a, semble-t-il, des dimensions quasiment équivalentes dans l'un et dans l'autre. Et ce qui est très intéressant également, c'est la similitude dans la répartition des soubassements de la KVA qui se superposent. Et on remarque que finalement, à Poitiers, on a quasiment une couronne périphérique supplémentaire par rapport à l'amphithéâtre de Bordeaux. Alors on s'est posé la question d'ailleurs de savoir si il n'y avait pas eu deux temps dans la construction de l'amphithéâtre de Poitiers. Un premier édifice qui aurait finalement eu la même dimension que celui de Bordeaux et une extension par ces galeries. Alors, le peu d'éléments que nous avons pu recoller à partir des faibles fenêtres de fouilles que nous avons ouvertes dans le cadre surtout de tranchées ne nous a pas permis de répondre favorablement à cette hypothèse. Il semblerait, à ce stade de l'enquête en tout cas, que l'édifice a été construit d'un seul jet. Alors, construit à quelle époque, les datations convergent plutôt vers le 1er siècle. Les caractéristiques architecturales tendent vers une attribution à l'époque julio-claudienne. Les éléments, nous, en matière de datation, avec toutes les précautions qui s'imposent, notamment en matière de datation radiocarbone, nous conduisent jusqu'à la seconde moitié du 1er siècle. Alors, on n'a pas un écart énorme, mais effectivement, on va dire que prudemment, on se situe dans le 1er siècle, en tout cas à ce stade de l'enquête. Voilà, je vous remercie.